Très heureux d'être à nouveau au milieu de vous. Vraiment. D'autant plus que je tiens encore à vous remercier parce que la dernière fois que j'étais venu, ça fait quand même longtemps, j'avais perdu mon appareil, vous vous souvenez? Et ça a été un miracle, mais grâce à vos prières. Parce que retrouver la nuit en revenant de Saint-Blaise, un appareil auditif qui est grand comme ça, sur un terrain de, sur un parking avec du gravier, et il aurait pu y avoir une voiture dessus, mais, et je l'ai montré déjà une ou deux personnes, et quelqu'un a marché dessus parce qu'il est rayé presque en profondeur, mais il fonctionne toujours. Et ça, c'est magnifique, et merci beaucoup, parce que c'est un peu, je n'y croyais plus. Et l'après-midi, quand le Seigneur me dit, mais va à Bienne. Ouais, mais il fait nuit, Seigneur. Ben oui, tu prends des lampes de poche, j'ai pris des lampes frontales et tout. Et puis, sur la route, j'ai eu la conviction que je le retrouverais. Mais voilà, merci beaucoup. C'est magnifique. Merci beaucoup. Voilà. Aussi une bonne nouvelle, parce que ça fait longtemps que je vous en ai parlé, j'ai fini ma thèse de doctorat. Alors, je ne cherche pas un titre, alors elle doit encore être révisée par un autre professeur, et voilà, mais enfin, mais je tiens aussi à remercier beaucoup notre ami Ralph et Liliane, parce que ça fait longtemps qu'ils m'aident au niveau informatique. Alors, mon bureau, vous savez, c'est comme un Boeing 737, hein, c'est, il y a deux anciens écrans de télévision très grands, des ordinateurs, une souris, bref, tout ça, c'est formidable. Et en plus, il m'a beaucoup aidé pour des, vous savez, j'ai dû presque tout apprendre à mon âge, des raccourcis clavier, comme on dit, n'est-ce pas? Et vous finissez par gagner un temps fou. D'ailleurs, demain après-midi, il est de nouveau chez moi, voyez? Donc, mais c'est plus qu'un ami qui m'aide, c'est un couple qui a combattu pour moi et avec moi, comme je combats aussi pour eux, pour leur santé. Et je pense que c'est important quand Dieu, on peut pas prier régulièrement pour le monde entier, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous donne des personnes, et puis on croche dans la prière pendant des années si nécessaire, ce que j'appelle la prière au long cours. Et on voit parfois des exaucements magnifiques. Voilà. Nous venons de vivre l'Ascension, et puis c'est bientôt Pentecôte, et puis après, ben après il y a la Miété, et puis il y a la Sainte Trinité, il y a le Jeûne fédéral, et puis il y a de nouveau Noël. Et on entend tout le temps ça, n'est-ce pas? Tout va très vite, tout va très vite. Et oui, c'est vrai. Ça fait penser un peu à vous avez peut-être vous souvenez peut-être du film Ben Hur, n'est-ce pas? Ceux qui sont aux galères. Alors, il y a le rythme de croisière, pam, 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 et puis il y a l'approche de la bagarre, pam, 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 et puis finalement, il y a le rythme de l'attaque, pam, 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 pam. Et nous sommes dans un monde qui vit au rythme de l'attaque. Tout va très vite, tout le monde le dit. Ça défile les mois, les fêtes chrétiennes. Mais nous devons ralentir. Doucement, doucement. Ça me rappelle mon enfance, des fois, ce mot doucement, parce que je sais pas si certains se souviennent des agriculteurs qui, le dimanche après-midi, prenaient un tilbury. Qui a entendu le mot tilbury? Et voilà. Ralph et Liliane. C'était une charrette avec des grandes roues. Les plus modernes avaient déjà des pneus. Mais il y avait qu'un siège. Et ils pouvaient se mettre trois ou quatre, et il y avait que deux roues, puis derrière éventuellement pour mettre des bagages. Et ils allaient se promener le dimanche après-midi avec des tilburys. Mais il fallait souvent dire doucement au cheval, n'est-ce pas? Moi, j'ai connu tout ça dans les fermes, bien sûr. Et puis, je dirais, c'est la fête de la musique ici, et on dit des fois doucement les basses, n'est-ce pas? J'ai fait de la fanfare assez longtemps, doucement les basses, doucement. Alors pour nous, nous devons revenir à Noël. Pourquoi? Parce que Noël, c'est quand même, C'est Dieu parmi nous. C'est bouleversant. Et ça doit rester bouleversant dans toute notre vie, tous les mois de l'année. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et puis, il y a cette chorale des anges qui touche les bergers. C'est pas rien, les bergers d'abord, vous comprenez? Ceux qui nous nourrissent, ceux qui conduisent les brebis. Tout cela était bien orchestré par notre Dieu et les mages. Et cette chorale de Noël, elle chante encore aujourd'hui, elle veut chanter dans nos cœurs encore aujourd'hui, elle veut chanter avec nous. C'est ce miracle de Noël, Dieu parmi nous, la visitation, vous voyez. Il s'est approché de nous, et je reviendrai sur cette notion de s'approcher comme on croit qu'on se tutoie, n'est-ce pas? Tu t'es approché de cet homme. Pour que Jésus puisse s'approcher de lui, il faut aussi s'approcher des personnes pour leur dire ce que je veux développer avec vous. Il s'est approché de nous. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et il est dit que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Et littéralement en grec, ça veut dire elle bougeait son cœur pour mettre les choses en place. Et on a besoin souvent, nous aussi, de bouger un peu les choses pour s'y retrouver, pour comprendre, pour aller de l'avant. Mais après, on ne passe pas tout de suite à Vendredi Saint. Bien sûr, c'est fondamental, mais Jésus va anticiper. Il va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et les disciples ont dû dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? C'est quoi cette histoire? Il dit, ben, vous verrez, vous apprendrez ce qu'est la croix. Et puis, Paul va encore vous en parler, même s'il n'a pas forcément dit cela à ses disciples. Offrez vos vies, Romains 12, comme un sacrifice vivant. Hein, ça, on passe pas devant l'autel en disant, Seigneur, merci, tu as donné ta vie. Non. Lui, il est à la droite de Dieu. Et il nous dit, ah, l'animal, c'est toi. C'est toi qui dois offrir ta vie. Donc je reviens à ce temps parce que on doit d'abord apprendre qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre pendant de courtes années, même bien plus, 30 ans. Comme charpentier, ce n'est pas rien. Mais le plus fondamental, je dirais, c'est qu'il a envoyé ses disciples. Et nous sommes concernés. Nous sommes encore dans ce temps. Vous comprenez? Bien sûr qu'il y a la croix, le salut. Bien sûr qu'il y a le Seigneur qui retourne au ciel, l'envoi de l'Esprit Saint. Oui. Mais nous sommes encore dans l'envoi des disciples. Et dans cet envoi, en Matthieu 10, verset 7, il est dit, je veux le lire avec vous, c'est juste extraordinaire. Quand il envoie ses disciples, alors vous direz oui, mais c'était les disciples, oui, mais ça nous concerne tous désormais. Et il est dit, au verset 7 du chapitre 10, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous direz, mais ça, c'était pour les disciples. Oh, non, 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 non. Alors, nous vivons pas vraiment cela, en partie. Et c'est une grande question. Seigneur, conduis-nous plus loin. Nous aimerions voir davantage de ces signes du royaume, des signes. Mais pour cela, ça implique qu'on partage l'évangile avec d'autres. Or, justement, il est dit, le royaume s'est approché. Malheureusement, des traductions disent, le royaume est proche. Bien sûr qu'il est proche, mais c'est pas la même chose que de dire qu'il s'est approché, vous comprenez? Parce que tant qu'on dit, il est proche, ça veut dire qu'on fait appel au retour du Seigneur, on a raison, il reviendra, mais il s'est approché. Le verbe « engizo », il s'est approché. Et donc, C'est la bonne nouvelle que nous avons à transmettre. De dire, mais vous savez, vous parlez avec des personnes même que vous ne connaissez pas, et très souvent et très vite, elles partagent des problèmes de santé, de famille, et le témoignage, je dirais le fondement de notre témoignage, de notre évangélisation, c'est de dire, vous savez, non pas, ne dites pas, est-ce que vous croyez en Jésus? Ils ne savent même plus qui est Jésus. Mais, et puis, est-ce que vous croyez en Jésus? C'est plaquer quelqu'un contre un mur, il n'a plus qu'à dire oui ou non. Mais par contre, de dire, vous savez, j'ai vécu des épreuves aussi, tout n'a pas été facile, mais Dieu s'est approché de moi en Jésus-Christ. Et il aimerait s'approcher de vous. Ça, je vous garantis que ça porte des fruits. Et surtout après, je vous l'ai eu dit, proposez simplement, sans mettre mal à l'aise les personnes, si c'est en public ou dans un magasin, mais moi je le fais dans la rue, je l'ai fait dans des magasins, simplement de prier pour la personne. Est-ce que vous me permettez de prier pour vous? Et je vois tant de personnes qui versent une larme et qui pleurent. C'est arrivé récemment, maintenant il est décédé, mais un homme du village que j'avais marié il y a très longtemps, et son épouse est, malheureusement a perdu la raison, et lui il m'arrête dans la rue et me dit, tu sais Pierre, mon épouse est après Fargé et moi j'ai un cancer avancé, et là dans la rue j'ai dit, est-ce que tu me permets de prier pour toi? Et il pleurait. Et je l'ai visité à l'hôpital, maintenant il est décédé. Le Seigneur s'est approché, c'est notre bonne nouvelle. Il veut s'approcher de vous. Et ce verbe, engizo, c'est en grec un parfait. Qu'est-ce que ça veut dire un parfait en grec? Ça veut dire c'est une action passée dont les effets sont présents, vous comprenez? Et ça, c'est formidable. Oui, le Seigneur est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, oui. Mais l'effet de Noël, c'est présent. Il s'est approché. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est ce qui nous permet de partager l'Évangile. Dieu s'est approché en Jésus-Christ, et il veut s'approcher de vous. Maintenant, ça c'est pour, je dirais, l'évangélisation. Mais Dieu voudrait encore être tout près de nous, encore plus près. Vous voyez, je pense à ce chant, « Mon Dieu, plus près de nous, près de toi ». Mais nous, on veut dire, on n'est pas sur un bateau en train de couler. Alors, des fois, on a l'impression qu'on coule, oui, mais quand même. Mais on pourrait chanter, mon Dieu, plus près de moi, dans mon salon. Mon Dieu, plus près de moi, dans mon salon. Voyez? Et ça, ça fait écho à Matthieu 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte et tu rencontreras ton Dieu. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. C'est la base fondamentale, je dirais, d'entretenir sa foi et d'être, bien sûr, le Seigneur est toujours là, il est même en nous, on est d'accord, mais quand même, quand il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, et c'est si important de prendre des moments, d'apprendre ces moments d'intimité avec l'Éternel. Peut-être je vous l'ai dit une fois, mais moi je prends régulièrement la petite porte de Jean en Apocalypse 4. Vous voyez, monte par ici, par une petite porte. Et qu'est-ce qui se passe? Le royaume des cieux, le trône de Dieu. Alors, c'est presque indescriptible, mais c'est glorieux. Et puis, il y a les anciens, les 24, et puis il y a la chorale de Noël, elle est toujours là, bien sûr, et ils sont très nombreux. Et il y a l'armée céleste avec le chef de l'armée de Josué, vous voyez, son épée, ils sont tous là. Et puis il y a les roues d'Ézéchiel, on n'y comprend rien, mais il y a du feu, c'est formidable. Et là, vous vous entrez, vous êtes bien assis sur votre fauteuil, et vous passez par cette petite porte. Et puis, la gloire de Dieu, vous la passez en revue. Dieu qui crée, Dieu au Sinaï, qui ouvre la mer. C'est, et vous vous faites du bien, parce que vous êtes vraiment tout près dans cette communion, parce que la vie, nous savons, la vie quotidienne, il y a beaucoup de choses, on court ici à gauche, à droite, on doit résoudre plein de choses, mais prenez ces moments où votre Dieu est vraiment tout près dans le sens où j'en parle. Maintenant, ça, j'ai parlé d'évangélisation, maintenant, je suis sur le plan personnel, maintenant, je passe au plan communautaire. Parce que dans Philippiens 4:4, vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Tu dis, ah, oui, oui, c'est facile à dire. Et Paul, comme il sait qu'on sera un peu choqué, il répète, hein, je répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, oui, mais Paul, il voit des miracles, il ressuscite les morts, quand il sait plus que faire, il y a un ange qui lui dit où aller, etc. Forcément, il y a de quoi se réjouir, on est d'accord. Eh bien non, il est en prison, à Rome, et donc ça change un peu les choses. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il est dit au pluriel, voyez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez, et ça implique la communauté, les amis. Ça implique la communauté, ça implique d'être ensemble. Et la suite, c'est magnifique. Bon, il a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, puis j'ai envie de dire quand même de toutes les femmes aussi. Que votre douceur, c'est pas toujours facile, hein, mais voilà. Et après, ne vous inquiétez de rien. Ouh, ça, c'est un peu compliqué. Le Seigneur est proche. Mais il ne faut pas traduire justement par le Seigneur. C'est le même verbe qu'avant. Le Seigneur s'est approché, c'est différent. Paul et l'Apocalypse, ils vont bien sûr parler du retour du Seigneur, l'apôtre Paul, en particulier dans les Thessaloniciens, bien sûr. Mais là, nous sommes ici sur la terre. Ne vous inquiétez de rien, car le Seigneur s'est approché, il est là. Et ça change quand même les choses, vous comprenez? On ne dit pas, oui, ben voilà, il revient bientôt, puis il va tout résoudre. Ça veut dire qu'il est là, il est présent. Et vous connaissez la suite, faites connaître à Dieu vos demandes avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées, mais on peut prêcher des heures sur tout est là, voyez, le cœur, les pensées, l'intelligence. Alors, je dirais, et je veux, ça va encore quelques minutes, pourquoi c'est si important d'être en assemblée, de vivre ensemble ces paroles de Paul, ne vous inquiétez de rien, parce qu'on peut se soutenir les uns les autres, parce que parfois, oui, on s'inquiète de différentes choses et on se porte les uns les autres. Mais j'ai été très bouleversé par ce livre. Est-ce que quelqu'un connaît ce livre? Résister aux mensonges, vivre en chrétien dissident. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup bouleversé. Et mon épouse l'a trouvé dans la rue. Vous savez qu'il y a des bibliothèques de rue. Alors, elle trouve ce livre et on ne peut pas dire je le quitte plus. J'essaie de ne pas quitter la parole de Dieu. Mais pourquoi ce livre? C'est un Américain, Rodrière, qui a écrit ce livre. Pourquoi? Parce qu'il a fait connaissance progressivement, avant de faire une recherche profonde, de personnes qui vivaient dans les pays de l'Est, au temps d'Hitler et au temps de la délivrance par les communistes. Et donc, évidemment, après avoir tant souffert, libéré par les Russes, c'était pour beaucoup la grande fête. C'était enfin la paix. C'était la vie retrouvée. C'était l'avenir qui était là. Mais se sont dressés des prophètes orthodoxes, pas beaucoup, quelques prophètes dont on connaît encore les noms, orthodoxes, catholiques, protestants, réformés, évangéliques, qui ont dit attention, les Russes ne font pas que passer, ils vont s'installer. Et on connaît le goulag, on sait ce qui se passe pour les chrétiens, nous devons nous préparer. Et donc, beaucoup l'ont rigolé, n'ont pas cru cela, en disant, mais ça arrive chez nous, alors comment se préparer? Et c'est là qu'ils ont été prophétiques et que je rejoins ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut apprendre à vivre seul avec son Dieu. Parce que si un jour vous êtes emprisonné, vous serez seul avec votre Dieu. Mais on le sait aussi qu'il y a parfois plusieurs prisonniers dans des cellules et qu'il y a souvent d'autres chrétiens, surtout si on persécute les chrétiens. Et donc on se forme aussi à prier ensemble et à quelques-uns. Et ce livre est bouleversant parce qu'il est allé à la recherche de toutes ces personnes. Pourquoi? Parce qu'elles disent, mais attention, l'Occident, nous vivons la même chose que ce que nous avons vécu dans les pays de l'Est. C'est la même chose maintenant à une différence près. Ils appellent cela le soft totalitarisme. Ça veut dire que ça viendra après la prison et la persécution, mais ça commence par le totalitarisme de la parole, de l'action. On vous contrôle de partout, chers amis. Et je lis avec vous un bref passage sur ce qui se passe en Chine. On le sait. J'ai vécu déjà cela personnellement, il y a quelques années en Chine, inimaginable. Contrôlé absolument partout, même dans les campagnes reculées. On allait visiter des églises interdites du silence la nuit et des flashs tous les 10 km en pleine campagne pour la plaque d'immatriculation. Vous ne pouvez pas entrer dans un seul hôtel sans qu'on vous prenne encore en photo les yeux, etc., etc. Or, il est dit, la Chine est sur le point de devenir quelque chose d'inouï jusque-là. Un État technototalitaire alimenté par l'intelligence artificielle. L'objectif est de former un nouveau type, non seulement d'État, mais d'être humain, qui aurait pleinement intériorisé les diktats de l'État et le caractère total de la surveillance et du contrôle qu'il exerce. Si l'intériorisation est cruciale, c'est parce qu'elle dispense les agents de l'État d'intervenir pour corriger le comportement du citoyen, celui-ci l'ayant fait à l'avance pour eux. Ça veut dire qu'il y a un tel contrôle que finalement les gens s'autocontrôlent. Pourquoi? Parce qu'ils perdent des points, vous comprenez? Si vous traversez un feu rouge, un passage clouté, vous perdez des points parce que c'est enregistré par ceux qui filment, qui reconnaissent vos yeux. Et si vous allez dans une église, vous perdez des points. Et quand vous perdez des points, vous allez prendre un billet de train et l'ordinateur dit non, vous avez perdu des points, vous ne pouvez pas voyager. La Chine en est là, mais ça veut dire que ça vient chez nous aussi. C'est cela le soft totalitarisme et on se rend compte. On n'ose plus dire n'importe quoi. En France en particulier, mais en Norvège, je ne sais pas si c'est Ralph qui m'a dit ça ou peut-être un autre ami récemment, en Norvège, on a emprisonné un couple parce qu'il voulait donner un cours sur le sens du mariage chrétien, un homme, une femme et des enfants. Interdit de parler de cela. Parce que c'est une offense pour ceux qui veulent vivre l'homosexualité. Et je vous le dis, si on vous pose une question, ah, vous êtes chrétien, vous pensez quoi de l'homosexualité? Ne répondez pas. Vous dites, dans la Bible, Paul a parlé de l'homosexualité et il a dit que c'était contraire à Dieu. Je crois à la parole de Dieu et je crois ce qui est dit, parce que cette parole a changé ma vie. Point. Mais ne dites pas, vous, que vous êtes contre ou comme ça, parce que c'est déjà passible d'emprisonnement dans certains pays. Et donc ici, il est question de témoignages précis, notamment d'un jeune médecin qui, à l'époque, était jeune médecin, mais qui a écouté ce prophète et qui a commencé à prendre du temps avec son Dieu, avec la parole. Il a été emprisonné plus de 15 ans, torturé, et il a pu résister parce qu'il s'était séparé. Et il témoigne encore aujourd'hui, il a été libéré, et il fait partie de ceux qui disent « Préparez-vous ». C'est triste à dire, mais il y a quand même longtemps qu'on le dit, que la persécution pourrait revenir. Plus vite qu'on imagine, je connais l'Afrique et le Mali par cœur. La persécution est au Mali. Les djihadistes prennent le Mali. C'est pas très loin de chez nous. Alors, je ne veux pas vous faire peur, parce que nous ne savons pas à quelle heure nous en sommes. Mais le soft totalitarisme est une réalité. Le contrôle de tout le monde. Le contrôle de tout le monde. Et ça veut dire que il y a des choses qui ne seront plus permises, il y a des choses qui seront difficiles. Mais nous avons lu Philippiens 4. On ne s'inquiète pas parce que ensemble, nous quittons l'inquiétude ensemble par la prière, par la communion fraternelle. Et je termine en lisant ce feuillet de calendrier qui était pour aujourd'hui. Peut-être certains le connaissent, c'est dans les psaumes. Je trouvais que c'était très beau. Il a dit « Souviens-toi de ton assemblée que tu as acquise autrefois. » C'est David qui parle. « Souviens-toi de ton assemblée que tu as acquise autrefois, que tu as rachetée pour être la portion de ton héritage. » C'est magnifique, d'autant plus que ma Bible, comme parfois, ne traduit pas vraiment toujours très bien. Parce que dans ma Bible, c'est dit « Souviens-toi de ton peuple ». Mais quand on regarde en hébreu, c'est magnifique parce qu'il est dit effectivement « assemblée, groupe, maison, bande et aussi peuple ». Mais voyez, « assemblée » et puis, je ne veux pas vous offenser, mais vous êtes la bande des pianos. Voyez, c'est glorieux, c'est voilà. Et je vous avais encouragé à continuer, chers amis. Persévérez parce que vous faites ce qui est juste. Une famille qui se rassemble, on prie les uns pour les autres. Et puis, Dieu envoie des jeunes qui vont trouver en Christ la force de ce qui vient. Parce qu'on pourrait dire, peut-être qu'on ne sera plus là, mais les jeunes seront encore là. Et donc, le Seigneur a besoin de bandes, vous comprenez, qui se rassemblent, qui chantent des cantiques, qui écoutent la parole et où on prie les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, vous encourage, vous fortifie. Continuez les amis, d'autant plus qu'il y a des résultats et que vous avez vos soirées. J'espère vous continuer, vous accueillez ceux qui éventuellement ont été contactés dans la rue. Vous continuez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, soyez bénis. Seigneur, merci pour cette assemblée où j'ai tant de joie à revenir. Ces amis qui sont fidèles, qui continuent, et ils sont toujours plus nombreux. Seigneur, bénis-les, encourage-les, parce que tu le sais, tu connais chacun, tu sais qu'il y a des maladies, des souffrances dans la famille, qu'il y a des inquiétudes qui sont là. Mais Seigneur, tu es là aussi, tu t'es approché. Tu es proche et tu veux être proche de chacun. mais aussi on veut être proche ensemble de toi. Merci de bénir chaque personne dans ce qu'elle vit, sa famille, où elle travaille, où elle vit, où elle a des loisirs, dans les maisons, partout. Seigneur, même dans un service funèbre, où tu peux te saisir de ce moment pour entraîner un jeune dans la foi et dans la conversion. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.